avec Christophe Billard cette semaine sur Art District Radio.
Bonjour Thibault, merci de me recevoir à la galerie Valérie Delaunay dans le Marais. Jeudi 30 janvier, s'est ouvert votre nouvelle exposition « Bagarre, Dauphin et Purgatoire », composée de très grandes œuvres et de plus petites aussi. Des œuvres très dessinées et surtout peintes. Des œuvres en noir et blanc, souvent dorées, parfois telles de précieux bijoux, ou bien très colorées, telles de riches enluminures. Pour ouvrir le débat et parler un peu de ton exposition, déjà, pourquoi ce titre singulier que je vais reprendre, « Bagarre, Dauphin » au pluriel et « Purgatoire ».
Alors, parce qu'il y avait beaucoup de titres possibles. Avant, je trouvais souvent des explications alambiquées à mon travail. Et comme j'aimerais quand même laisser libre cours à l'imagination du spectateur de trouver le sens dans mon travail, parce qu'il y a beaucoup de sens caché dans mes peintures, je trouve qu'un titre très descriptif, qui reprend finalement des thèmes des différentes œuvres, suffit largement à faire travailler l'imaginaire pour entrer dans l'exposition.
Donc c'est vraiment ensuite introductif,
ouais.
Et c'est à chacun, regardeur et autres.
C'est aussi, il y a l'œuvre éponyme qui s'appelle, oui, Bagarre, Dauphin, Purgatoire, qui joue son rôle de répertoire de forme pour toutes les autres œuvres de la galerie. C'est-à-dire que tout est dans cette œuvre, et toutes les autres peintures sont finalement des petits extraits, des petits découpages, on va dire des excroissances de ce grand format.
Des modules, des excroissances, tout est dans tout. Alors, je vais rebondir surtout sur le très beau texte qu'a écrit Shirin Amouche, critique d'art, qui écrit à propos de votre exposition, qui parle plutôt d'une œuvre foisonnante et titanesque, qui parle de thématiques de révolte qui grondent et de violence, au pluriel, et qui parle d'une richesse de référence à l'histoire, avec un grand H, et à l'histoire de l'art. Donc en fait, voilà, j'ai identifié ces trois thématiques. Est-ce qu'on pourrait les aborder l'une après l'autre et pour commencer ensemble, ces œuvres qui sont exposées. Donc tu parlais effectivement de cette très grande œuvre qui rassemble un peu l'ensemble de tes œuvres exposées. Œuvre gigantesque, riche, foisonnante. Et à l'opposé, il y a des toutes petites œuvres, des tout petits blocs, colorés ou pas colorés. Qu'est-ce que cela a comme sens par rapport à toi ?
Alors, la grande œuvre, comme je disais, elle sert de matrice, finalement, à tous ces rejetons qui sont autour. Et les plus petites œuvres sont un peu des coups de projecteur, en fait, mis sur des détails de cette scène-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui échappent au spectateur devant le foisonnement, justement, de cette grande composition. Et donc, les petites scénettes qui sont extraites, peut-être éclairent ou obscurcissent, enfin, embrument peut-être l'esprit du spectateur. Mais voilà, c'est pour apporter d'autres points de vue. En fait, j'aime bien l'idée le concept de mythogramme qui a été développé par le préhistorien Leroy Goran et qui définit en fait le mythogramme à l'opposé du pictogramme, qui est le pictogramme serait un dessin qui décrit une situation concrète, genre une scène de chasse, une scène très claire à décrire, et le mythogramme c'est plus un support abstrait qui dit qu'on doit interpréter si on veut avoir accès à ce qui est représenté. Et donc en fait tous ces petits extraits viennent que de nouveaux petits interprètes, des nouveaux petits chamans, qui permettent d'enrichir la grande composition. Qui peut être un peu écrasante. Et surtout, est-ce qu'on la lit de bas en haut, de gauche à droite, tout ça. En fait, peut-être qu'il ne faut pas la lire comme ça, il faut la lire en profondeur.
En profondeur.
Avec les, voilà.
Donc justement, j'allais rebondir sur cette idée. Est-ce qu'on regarde d'abord la grande œuvre synthétique et on fait un drilling, on essaye de descendre dedans dans les petites œuvres, ou est-ce qu'il y a le sens inverse? On regarde d'abord les petites œuvres et qui se rassemblent dans la grande. Est-ce qu'il y a un sens ou pas de sens en fait?
Non, moi dans mon travail, il n'y en a pas. D'accord. Dans mon travail, moi j'ai commencé il y a quelques années par une scène avec, je dis n'importe quoi, mais environ une cinquantaine de personnages. Et puis j'ai commencé à rajouter du décor autour, puis d'autres personnages, j'ai fini par avoir une assez grande composition. De là, j'ai extrait certains personnages, à qui j'ai adjoint deux nouveaux personnages que j'ai réintroduits dans la composition, et petit à petit, je pousse les murs et je fais des allers-retours.
Donc c'est très itératif,
voilà,
en fait.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, cette grande composition, elle a une version, une genèse, qui date de peut-être 2019. Oui, c'est ça, 2019. Et qui ressemble beaucoup à ça, mais elle a aussi d'autres enfants qui ne ressemblent pas du tout. On retrouve en fait, c'est plutôt des frères et sœurs, des siamois, des aberrations génétiques, disons, et qui se. Donc il n'y a pas vraiment de sens. Moi, je trouve toujours plus intéressant de commencer par la grande parce que ça permet d'y revenir.
D'y revenir et puis de prendre la mesure du tableau et de la scène décrite et puis après de descendre dedans.
Exactement.
Pour revenir aux thématiques que Shirin Amouche aborde dans son papier sur votre exposition, au-delà des violences qui très crues parfois dont vous faites état, ou des révoltes, ou du sentiment de révolte qui transparaît dans vos dessins, est-ce que vous sentez le témoin, le rapporteur d'une actualité sociale et politique de notre temps? Est-ce que vous avez un jugement que vous exprimez clairement, ou est-ce que vous proposez une opportunité au regardeur de se questionner à travers vos œuvres?
Alors, moi, je mélange un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai un avis très tranché, que je ne sais pas de mettre en forme, parce que sinon, ça revient à de l'illustration très pauvre. C'est pas ça qui m'intéresse. Les tableaux sont quand même là pour qu'on se pose des questions, donc si c'était trop clair, ce serait pas drôle. Par contre, c'est vrai que j'utilise forcément les matériaux que j'ai autour de moi. Et donc, ça va des livres de sociologie au journal de 13h, au cinéma, à l'histoire, l'actualité. Enfin, je mélange tout ça. Et parce que je pense que tout ça se répond en fait. Ma matière finalement c'est aussi le mythe. Les problèmes de l'humanité sont quand même perpétuellement les mêmes quand on parle de l'histoire ou de l'actualité. Les questions, vous parlez beaucoup de la violence, et c'est marrant parce que moi j'ai pas l'impression d'en mettre tant que ça de la violence dans mes images, mais il y en a partout. Mais
par elle est diffuse, elle est subtile, elle est omniprésente, mais il faut aller la chercher en même temps. C'est justement pour ça que...
Mais personne ne me parle des petits moutons en arrière-plan, par exemple. Alors il y a beaucoup de douceur.
Il y a des jolies vallées, des jolis vallons, il y a des nuages. Il y a aussi d'autres choses beaucoup plus. Un policier qui tient un chien, qui est en train d'hurler. Scènes beaucoup plus crues, quelquefois.
En fait, moi, je mélange tout ça. Et à un moment, j'essaie de suspendre mon jugement pour dessiner. Parce que si je continue de juger, soit je vais arriver à une conclusion qui ne sera pas très intelligente, parce que je pense que tout seul, j'aurais pas... Voilà. Donc je vais juste illustrer, dessiner, je redeviens un peu un enfant, et comme quand j'étais petit, je me racontais des histoires avec mes Legos et tous mes petits soldats, je finis par prendre tous ces éléments-là qui m'entourent, dessiner mes petits soldats, et advienne que pourra.
Oui, donc c'est un mélange de Lego, de Playmobil, de soldats, et le circuit automobile qui est derrière.
Exactement.
On avait les mêmes jeux, je crois.
Voilà. Ouais.
D'accord. Une autre question, Thibault, sur la complexité. Shirin parlait de foisonnement, d'œuvres gigantesques, mais de complexité aussi de vos compositions, qui tient, à mon sens, tant à la minutie de vos dessins, peints ou décorés, mais aussi aux divers niveaux de lecture que vous proposez, aux multiples et foisonnantes références à l'histoire avec un grand H, j'en parlais tout à l'heure, et aux grands maîtres qui vous ont précédé. Alors, je cite Fra Angelico, Jérôme Bosch pour certains. J'ai entendu des gens parler de Van Eyck durant le vernissage. On pense aussi aux riches heures du duc de Berry. Mais moi, j'ai aussi vu des clins d'œil à la BD avec ses policiers, ses voitures, la moto, des choses qui sont à la fois très plutôt religieuses. On pense effectivement aux anges et aux figures de la religion classique. Qu'est-ce que pour vous, est-ce que cette complicité, elle est nécessaire? Est-ce que c'est aussi la manière dont vous explicitez et vous composez vos œuvres?
Alors, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la question du foisonnement, elle est induite par le fait que j'ai peut-être trop de choses à dire, je suis quelqu'un de très bavard. Et donc, à force de représenter... Au départ, je faisais des petites scénettes isolées, mais j'avais pas le temps de les peindre. Donc j'ai fini par les mettre toutes dans le même tableau, et ça donne ce que ça donne. Mais non, plus sérieusement, pour revenir aux primitifs, parce que finalement, c'est les primitifs,
oui, c'est les primitifs
italiens
c'est
ou
c'est
flamands
italien,
qui m'intéressent. Ouais. C'est juste que quand on accumule tout et qu'on veut un peu de liberté dans la perspective et on est au balbutiement de la perspective géométrique, avant tout ça, il y a quand même beaucoup plus de liberté quand la perspective est signifiante, quoi, qu'elle soit hiérarchique, vous savez, on met le roi très grand,
oui,
et
oui,
les manants
tout
petits.
Fait, oui.
Toute cette liberté-là, je me l'approprie parce que c'est pratique et que je trouve ça très joli et poétique. Ça permet des... Oui, c'est ça, ça permet de la poésie dans la composition. Et on n'est pas contraint par la forme réaliste, j'allais dire. Et quand vous parlez de la BD, alors je suis pas d'accord.
D'accord.
Je pense que c'est la BD qui pique
qui
à ces gens-là, tout
gens-là.
Simplement.
D'accord.
Et que si là vous voyez des CRS, donc vous voyez de la BD, mais en fait j'ai une composition de une foule de CRS qui charge.
Mm-hmm.
Et en fait c'est un copier-coller presque de certaines parties de la bataille de San Romano, enfin d'Uccello.
D'accord.
Quoi.
Donc ils sont des.
En fait
des
on change les costumes.
On change les costumes.
Et tout d'un coup on parle de BD, mais en fait c'est juste une question d'époque.
Ok, donc c'est une question de une transposition
ouais,
d'époque.
Voilà.
Donc c'est mon interprétation
ouais,
de la mythe ou de d'œuvre de l'histoire.
Je pense parce que moi mes références sont vraiment pour le coup beaucoup plus anciennes.
Beaucoup plus anciennes.
Et malheureusement malheureusement pas. C'est vrai que j'ai très peu de culture BD.
D'accord.
Alors peut-être que c'est dans l'inconscient collectif. Enfin, l'image est.
En tout cas, c'est ce que on peut percevoir. Chacun peut percevoir d'après la lecture qu'il fait le. Mais ces grandes compositions où là, on a devant nous, par exemple, ces chevaux, ces policiers, en armes avec leurs joutes et autres. Il y a un certain côté bruegelien. Mm-hmm. En fait, dans le foisonnement de ces bons hommes, de ces animaux de partout. En même temps, on n'est pas du tout dans le côté bruegelien qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous amuse d'assimiler, d'agréger tous ces scénettes, en fait, pour en faire une plus grande scène? Mais comme vous disiez, la grande scène aussi, elle se nourrit de d'autres petites scénettes qui vont, donc on regarde à tous les niveaux, finalement, ce tableau.
Oui, il y a un côté, en fait, c'est un peu bête et méchant, mais il y a aussi un côté où la complexité vient du côté pratique de ces allers-retours constants. Il y a un moment où, quand il n'y a plus de place dans le tableau, il faut en faire, et donc ça fait...
Donc vous sortez du tableau.
Et j'aime cette... Oui. Je pousse régulièrement les murs. Et d'ailleurs, si vous regardez, les petits formats, souvent, sont coupés de manière un peu particulière.
Oui.
Parce que j'ai ma grande scène, je coupe dedans, et ensuite, soit je garde les coupures parce que je trouve ça intéressant, soit je repeins une partie pour rajouter un bout de décor qui n'était pas dans la grande scène. Et donc, c'est ces allers-retours qui donnent cette forme-là. Mais c'est pas toujours maîtrisé, dans le sens où, enfin, c'est maîtrisé à la fin, mais au début, les accidents de composition sont... Comment dire? C'est...
Ils sont intégrés, ils sont digérés,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça. Il y a une côté... L'improvisation, elle se fait pas au moment, finalement, du dessin, elle se fait au moment de recomposer. C'est-à-dire que je prends, je me dis, allez, là, on taille comme ça. Tac, parce que là, ça paraît sympa. Et en fait, il y a tellement de choses qu'il y a forcément des endroits où il y aura ce qu'on appelle des nœuds graphiques. C'est-à-dire qu'il y a un trait qui est coupé pile sur le trait, ça ne va pas aller. Donc, il faudra corriger, inventer un nouvel élément, peut-être ajouter du vide. Parce que souvent, je rajoute du vide, en fait. J'ai obligé tellement tout.
Mais vous le remplissez très vite après.
Je me retiens. Parce que j'ai envie de tout remplir et en fait il faut pas tout le temps, il faut laisser un peu respirer.
Vous avez dit que vous étiez bavard, effectivement.
Pardon.
C'est une bavardise, mais aussi c'est une grande générosité quand vous peignez et vous dessinez.
Alors est-ce que c'est de la générosité ou de la logorée qui
Alors ça dessin? C'est bon, on va rester à ce niveau du mythe pour ne pas dévoyer.
Mais la forme, vous parlez de la forme de l'art sacré, le côté.
Oui, l'art sacré. Oui.
C'est simplement que tout ce dont je m'inspire n'existait que l'art sacré à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il nous reste rien. Je ne sais pas. Enfin, les quelques dessins profanes ou les petites caricatures d'époque. Ou, voilà. C'est surtout quand même l'art sacré. C'est l'Église qui commandait tous ces travaux.
Tout à fait. Bien sûr. Oui, c'était.
Donc, et après, je trouve que c'est une forme séduisante parce que ça rajoute le côté mythique, justement, sacré, tout simplement.
Puis vous allez souligner avec un petit homme doré, une petite arche, et juste ce qu'il faut pour inspirer des sentiments beaucoup plus religieux, des pensées beaucoup plus profondes.
Alors, ce qui n'est pas du tout, j'allais dire, je ne suis pas religieux, mais je dois.
Non, mais c'est pas.
En fait, c'est vraiment pour rajouter un peu de solennité dans ce côté. Vous voyez le côté BD?
Le côté, oui.
Oui, on peut le casser en rajoutant
un aureole dorée. Tout à fait.
Et par contre, ça ne nuit pas du tout à la narration, c'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, se demandent... En fait, le sacré, ça questionne beaucoup et ça impressionne. Et donc, l'avoir dans un tout petit format, on est dans l'icône et en même temps dans le truc très épique, parce que les icônes, normalement, ne sont pas aussi chargées. Enfin, c'est des portraits, il y a un truc épuré. Et donc, il y a un mélange, on est toujours dans le mélange des genres. Et ça rajoute le côté grotesque de certaines de mes scènes, vient frotter un peu avec le côté hiératique.
Alors, grotesque, je reprends le thème et j'aborde une des dernières questions à vous poser, puisque nous arrivons vers la fin de cet entretien. Moi, j'allais faire un parallèle avec l'exposition sur le fou, la représentation du fou du Moyen-Âge romantique qui vient de se terminer au musée du Louvre. Lors des premières œuvres exposées, on voyait ce fou, ces marginaux avec un petit singe en enluminure dans la marge d'un manuscrit. J'avais l'impression de revoir au travers de vos œuvres lors du vernissage une approche très similaire en fait, et je me disais mais finalement il est peut-être en train de nous représenter ces marginaux, ou il est en train de nous représenter l'image de la folie de notre propre monde. Est-ce que, en guise de conclusion, ça vous inspire un commentaire particulier au-delà de la flatterie que je viens de vous faire?
Alors merci. Sur le fond, je ne vais pas commenter est-ce que je représente la folie ou pas. Ça, encore une fois, je laisse le spectateur juge. Il y a des choses assez évidentes, d'autres moins. Par contre, sur la forme, effectivement cette idée qu'au début de l'exposition, on voit que ces figures du fou sont marginales, et d'où le terme, bah, ce sont des marginaux, et qui petit à petit prennent de plus en plus de place et deviennent le sujet principal. Il y a un vrai rapport avec ma façon de travailler, où j'ai ma composition principale, je rajoute, j'accessoirise, j'agrémente de plein de nouvelles scénettes qui, tout d'un coup, sont extraites et deviennent le sujet principal.
Et le centre même, voilà, de votre tableau.
Et donc cet aller-retour de cette figure du marginal qui devient le héros, j'allais dire, ça me parle beaucoup.
Donc, on vous retrouve bientôt dans une exposition de vos œuvres au Louvre pour mélanger art contemporain et art beaucoup plus classique.
Absolument, en 2026.
Très bien. Merci Thibaut.
Merci Christophe.
Thibaut Huchard est né à Lyon. Il vit et travaille à Paris et après avoir été diplômé de l'école Émile Cole de dessin de Lyon dans les années 2005-2010. À ma question, pourquoi le dessin comme médium d'expression principale, Thibaut apporte une réponse sous trois points. La première, d'abord, il n'y avait pas de cours de peinture aux Beaux-Arts de Lyon, donc il s'est naturellement orienté vers l'école Émile Cole. C'était aussi un moyen pour lui d'acquérir une compétence, qu'il dit même une compétence académique, afin de pouvoir avoir son passeport académique et ensuite pouvoir faire d'autres choses. Mais finalement, il est largement resté sur le dessin. Et puis, le troisième élément de réponse pour Thibaut, c'est que le dessin s'écrit effectivement D-E-2-S-I-N, mais c'est aussi par rapport à une composition, c'est tout un projet, c'est un enjeu, et il le décrit aussi comme le dessin D-E-2-S-E-I-N qui aujourd'hui dirige un petit peu sa pratique. Les œuvres de Thibaut Huchard sont à admirer et à déguster avec gourmandise, avec délectation aussi, en allant de l'une à l'autre, des grandes aux petites, des petites aux grandes. L'exposition est à voir jusqu'au 1er mars 2025 à la galerie Valérie Delaunay, au 20 rue Chapon, Paris 3e.